partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Nous continuons aujourd'hui notre présentation de quelques francophiles argentins. Et il s'agit d'un ami de Proust et de Borges, Carlos Valiente Noailles. Depuis plusieurs jours, le nom de Carlos Valiente Noailles revient régulièrement dans la bouche de mes amis argentins. Intrigué, je le suis par la réputation de ce personnage. Dès que l'un d'entre eux me propose un rendez-vous avec lui, je m'empresse d'accepter. Juste avant 10h, parvenu devant la porte d'un immeuble cossu de l'avenue Alvear, celui où réside M. Valiente Noailles, je donne mon nom dans l'interphone. Après un bref moment d'attente, une voix posée m'invite à entrer. J'apprécie d'emblée l'accueil, la simplicité et les manières de parfait gentleman de Carlos Valiente Noailles. Une profonde sagesse émane de son visage régulier, soigné, non exempt de gravité. Cet homme est mystérieux par certains côtés. Ses yeux rêveurs, lumineux, impénétrables, savent analyser le visiteur que je suis. Ce descendant d'une vieille famille argentine met en avant avec un plaisir évident ses origines françaises. Prononcer le mot « France » est une fête pour lui. Il répète d'ailleurs ce mot plusieurs fois avec une gourmandise extrême. Devant moi se tient un aristocrate qui a compris la valeur de la gentillesse, « gentilezza », au sens où l'entendait Proust. Ce gentleman, plutôt réservé au début de la rencontre, s'anime, devient au fil des minutes discrètement chaleureux, non sans délices. Il se rappelle que déjà, dès l'âge de 5 ans, il se débrouillait mieux en français qu'en anglais. Vers 8 ans, il eut la chance de bénéficier de la science d'une française. On n'imagine pas ce que notre civilisation doit à ces professeurs de français qui ont sillonné le monde en apportant leurs connaissances, qui n'hésitaient pas à lui piquer le bras avec un crayon aiguisé s'il ne faisait pas attention à l'ordre grammatical. Il ajoute d'un air malicieux afin de bien marquer sa préférence linguistique qu'il n'appréciait pas son professeur d'anglais, il trouvait la française meilleure éducatrice. Cet amour pour la langue française signifie qu'aujourd'hui encore au cœur de la ville de Buenos Aires, grignoté par l'américanisation, un Argentin cultivé, il n'est pas le seul, nous l'avons noté, déclare lire au moins 80% de son temps en français. Qui est donc ce personnage que Jean d'Ormesson, dont le père appréciait tant Victoria Ocampo, aurait aimé introduire, j'en suis sûr, dans son fameux roman « Au plaisir de Dieu ». Son curriculum vitae répond pour lui. Avocat de formation, il est à la fois président de la fondation Navarro Viola et directeur de la Continental, une compagnie d'assurance prestigieuse. Outre son diplôme d'avocat, cet homme brillant, éclectique, a obtenu 2 doctorats, l'un en droit et sciences sociales, décerné par l'Université de Buenos Aires en 1966, l'autre en anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales en 1994. Autant reconnaître que le parcours de cet homme raffiné, qui a également été professeur d'université, s'avère impressionnant. Ce spécialiste d'abord de la morale publique et des garanties constitutionnelles, tel s'affirme en effet le sujet de sa première thèse, a écrit ensuite une deuxième thèse, retenez bien l'information, sur les sexes chez les Cua, c'est-à-dire les Bochimans, du centre du sud et de l'est de la réserve centrale du Kalahari, relations différences et complémentarité dans les rôles et les symboles. N'est-ce pas impressionnant? Cet homme, plutôt frêle, impeccablement vêtu, bon chic, bon genre, n'a pas hésité à aller 20 fois sur le terrain en Afrique. Lui et ses équipes ont pris plus de 50 000 photographies anthropologiques, dont une sélection de plusieurs milliers d'entre elles ont été offertes au laboratoire d'anthropologie sociale de Paris, qui dépend du Collège de France et de l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales, où Claude Lévi-Strauss possède son cabinet de travail installé dans un nid d'aigle. Autant reconnaître que cet amateur de livres est aussi un homme d'action, un spécialiste d'anthropologie visuelle, prêt à défendre la réalité humaine dans ce qu'elle a d'essentiel. Installé dans son salon où sont accrochées des peintures qu'il adore, signées par la sœur de Jorge Luis Borges, Nora, âgée aujourd'hui de 97 ans, dont l'inspiration se rapproche de celle d'une Marie Laurencin et de certains peintres italiens de la Renaissance, il me raconte ses coups de foudre littéraires. Depuis toujours, Carlos Valiente Noailles apprécie des écrivains comme Paul Éluard, Louis Aragon, et surtout Marcel Proust, parfaitement évoqué, précise-t-il, par la princesse Bibesco, laquelle lui a dédicacé en 1968 un essai intitulé « Le jardin de Marcel Proust ». Au cours de la conversation, il n'hésite pas à vanter les qualités d'un ouvrage de cette même dame, « La vie d'une amitié ». Mon hôte reconnaît avoir récemment passé 6 mois à relire « À la recherche du temps perdu ». En vérité, cette époque le passionne. N'est-il pas merveilleux de penser que Proust possède autant d'amis à Buenos Aires ? Les mémoires des Goncourt, qui n'hésitaient pas à écrire des choses incroyables, retiennent aussi son attention, comme l'œuvre de Rilke, qu'il a découvert en français. C'est Madame la langue française, qu'il faut le souligner, a ouvert les portes d'autres langues à Carlos Valiente Noailles. Lecteur infatigable du Monde et du Figaro, il se souvient avec délices des carnets d'André Billy. La lecture d'écrivains aussi différents que Saint-Exupéry, André Gide ou l'allemand Ernst Junger, ce dernier, mais il le lit en traduction française, le comble. Aussi cet homme de cœur et de mémoire considère-t-il sans hésiter une seconde que la France est une patrie spirituelle pour lui. Cela dit, cet amour pour la France ne l'éloigne en rien de sa terre natale, sa patrie charnelle en pleine maturation et dont le rayonnement a été décuplé en son temps par Victoria Ocampo. Soucieuse de développer les liens de son pays avec d'autres régions du monde, d'explorer au cœur même de l'Amérique, très sudiste, une sensibilité se moquant du nationalisme restrictif afin de témoigner à la fois de la variété et de l'universalité de l'esprit humain. Carlos Valiente Noailles aime rencontrer des êtres cosmopolites. La plupart de ses amis parlent en effet plusieurs langues. Son frère unique décédé, hélas, n'avait pas échappé à cette influence contagieuse. C'était un admirateur de l'humoriste français Camus, à ne pas confondre avec Camus, précise mon hôte en souriant. À la façon d'un lecteur attentif qui explorerait l'univers complexe d'un personnage de Proust, au fil de l'entretien, je découvre certaines de ses nombreuses facettes. Ayant compris que ses activités m'intéressaient au plus haut point, Carlos Valiente Noailles me propose d'aller visiter le siège de la Fondation Navarro Viola, un superbe hôtel particulier légué par la famille Viola. Cette fondation, créée en 1973 afin de promouvoir l'éducation et la médecine sociale, est aujourd'hui une institution unanimement respectée. C'est pour ses éminentes qualités humaines que Carlos Valiente Noailles a été choisi par la famille Viola comme exécuteur testamentaire. En découvrant la superbe demeure patricienne, j'écoute les propos de ce pédagogue plein d'esprit, fervent admirateur des Bochimans, je l'ai dit, disciple du réputé professeur Marc Auger. Cette plongée dans l'univers du beau, de l'harmonieux, me fait oublier les convulsions de nos sociétés. Cet homme de cœur m'assure qu'il n'accepte pas que le français continue de perdre de l'influence en Argentine. En vérité, non sans optimisme, il est persuadé que le feu spirituel couve sous la cendre. De nombreux indices prouvent que la France n'a pas dit son dernier mot en Argentine. Sur le ton de la confidence, il me confie ce qui suit. Constatant que ma disciple âgée de 23 ans, Maria, ne s'intéressait pas assez à la civilisation et à la pensée française, je l'ai un jour emmenée à Paris. Grâce à ce voyage, le virus français coule à présent dans ses veines. Après m'avoir révélé cela, le visage de Carlos Valente Noailles est comme transfiguré. Son amour pour la civilisation française et la vie de l'esprit m'impressionne. Toujours plein de verve, ce gentilhomme d'environ 60 ans m'apprend qu'après la Seconde Guerre mondiale, une école de théâtre français, dirigée par une certaine Madame Garma, existait à Buenos Aires. Cette Française avait épousé en première noces un psychanalyste réputé, Angel Garma, d'origine espagnole, lequel avait introduit cette discipline en Argentine. Après avoir divorcé, Madame Garma s'est remariée avec Robert Webel Richard, fondateur avec Roger Caillois de l'Institut français d'études supérieures. Cette dame habite aujourd'hui Paris. Une fois de plus, je réalise à quel point Freud et ses disciples ont permis l'évolution des consciences à Buenos Aires. Faut-il rappeler qu'en 1940, l'influence victorienne n'avait pas encore lâché prise et que l'information sexuelle laissait terriblement à désirer. Dans un tel contexte, les travaux du médecin autrichien et ceux de ses disciples éclairaient une partie de l'aventure secrète de l'homme intérieur. Et comme dans la capitale porteigne, c'est-à-dire Buenos Aires, je m'en suis vite rendu compte, on apprécie la catharsis, la rencontre de l'autre, surtout la nuit lorsque l'inconscient de la ville et celui de ses habitants émergent le mieux. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les théories freudiennes, pour ne citer qu'elles, aient retenu l'attention des curieux. La nuit a écrit quelque part l'argentin prose, le porteigno, L'habitant donc de Buenos Aires éprouve comme Scheherazade le besoin de se raconter pour survivre. Et Buenos Aires, bénéficiant d'un véritable climat onirique, si l'on en croit Macedonio Fernandez, un écrivain que Borges considérait comme un de ses maîtres, on devine mieux l'intérêt qu'a éveillé la psychanalyse en de tels lieux. Cet intérêt a certainement été renforcé par l'action néfaste de dictatures successives à l'origine de nombreux traumatismes. Il m'apparaît fondamental de souligner ici que malgré un nationalisme parfois excessif, l'Argentine s'affirme paradoxalement comme un pays ouvert à l'étranger, à l'inconnu, aux idées nouvelles. Mais revenons aux confidences de mon hôte, dont une de ses plus chères amies, Madame Gloria Rodriguez Alcorta de Santa Marina, quel beau nom, aujourd'hui âgée de 84 ans, a été l'élève de Madame Garma. Cette tante s'exprime toujours dans un français parfait et récite avec aisance aussi bien du Paul Claudel de Henri Michaux que du Paul Éluard. Autre trait révélateur de la très forte influence française sur les Argentins les plus âgés, cette même tante, née à Biarritz en 1914, le jour de la première bataille de la Marne, a été baptisée, croyez-le ou non, Gloire de France. Cette anecdote émouvante ravive en ma mémoire le souvenir de plusieurs films patriotiques de l'époque, dont celui de l'étonnant Marcel L'Herbier, intitulé Rose France. Aussi, lorsqu'il se réunissait dans sa La Quinta familiale, c'est-à-dire une propriété située près de la ville, des Valiente, donc la Quinta des Valiente Noailles, amis et parents pouvaient-ils s'entretenir non seulement avec une dame, mais mieux encore avec une dame Gloire de France. Plus d'une fois au cours de cet entretien spirituel, Carlos Valiente Noailles évoque l'Argentine avec tendresse. Je sens qu'il aime infiniment son pays, ce qui n'empêche pas mon hôte de stigmatiser certains défauts en vigueur dans son lieu natal. Le premier d'entre eux lui apparaît être l'indiscipline. Le second, sans hésitation possible, le ressentiment social qui a secoué l'Argentine au XXe siècle, comme en France d'ailleurs. Il n'oublie pas que c'est le général Perón qui a encouragé maintes campagnes virulentes contre l'aristocratie. Il considère que ce monsieur a été une catastrophe pour l'Argentine. Quand on pense que cet homme a eu la bassesse de faire incarcérer Victoria Ocampo durant 3 semaines parce qu'elle avait participé à une manifestation, imagine-t-on cette femme si peu politique au sens idéologique du terme, internationalement estimée, se retrouvant du jour au lendemain en prison, accusé à tort d'avoir participé à un attentat. Quelle sinistre farce! Il ne faut pas cesser de répéter que le général Perón, fervent admirateur de Mussolini, protecteur à la fin de la guerre de tant de nazis contre des espèces sonnantes et trébuchantes, était un personnage fondamentalement pervers. Après avoir dit cela, on ne rêve plus aux côtés de Calderón de la Barca, on commence à déchirer le voile d'une multitude de secrets qui pèsent lourd, très lourd, en Argentine. Comme s'il avait senti monter le bouillonnement de mes pensées, Carlos Valiente Noailles, désireux de tourner le dos à ce passé à la fois terrible et sulfureux, se met soudain à évoquer le souvenir de son ami Jorge Luis Borges, mort depuis un peu plus de 10 ans, à l'âge de 87 ans. Il appréciait énormément la poésie de Borges, ce qui touchait au plus haut point l'écrivain, car ses autres amis préféraient, eux, dans l'ensemble, ses contes et ses essais. Borges, souligne-t-il, était le témoignage vivant de deux grandes qualités argentines, le sens de la famille et celui de l'amitié. Un jour, en 1985, mon hôte avait invité l'écrivain, le fabuleux aveugle de Buenos Aires. Doté d'une mémoire phénoménale dans sa quinta, parce que ce dernier voulait voir son dernier film sur les bâchiments du Kalahari, Maria Kodama, sa femme, l'accompagnait, Teresa Usandivaras, l'assistante au Kalahari de Carlos Valiente Noailles, se trouvait également là. Elle lui racontait le film lorsque l'appareil tomba, hélas, en panne. Rompant le silence, Borges leur confia qu'il appréciait beaucoup les Negro Spirituals, si bien que mon interlocuteur lui proposa d'en écouter a cappella. Alors, quelque chose de merveilleux se produisit. Teresa chantait les Negro Spirituals, tandis que Borges récitait en la précédant les paroles. Mon hôte se souvient que l'écrivain se tenait là devant lui, rayonnant de joie au milieu d'un splendide coucher de soleil. Et je laisse parler Carlos Valiente Noailles. Je garde toujours présent dans mon esprit et dans mon cœur le visage de ce personnage très timide qui adorait se trouver avec moi et Teresa. Ce jour-là, il ne voulait pas partir, il nous offrait un merveilleux sourire d'aveugle. Lorsqu'on lui lisait quelque chose de beau, son sourire empreint de douceur éclairait son visage d'une vraie jeunesse et pourtant l'homme était vieux. Témoigne encore Carlos Valiente Noailles. Aux côtés de Borges se trouvait, ai-je dit plus haut, Maria Kodama. Celle qui fut l'élève du maître développa pour lui, au fil du temps, une extraordinaire empathie intellectuelle. Il paraît qu'une relation amoureuse finit par les réunir, mais l'on n'en sait pas grand-chose, car la délicate Maria Kodama a toujours été fort jalouse de son intimité. Carlos Valentino Hayle les a souvent vus ensemble depuis 1970. Borges adorait être avec Maria Kodama, qu'il a accompagné dans de nombreux voyages en Europe, aux États-Unis et même dans l'insolite Islande. En vérité, elle a abandonné sa propre carrière littéraire pour mieux s'occuper de lui. À la mort du grand écrivain, elle a été victime de personnes fort jalouses de savoir qu'elle était l'héritière d'un homme aussi illustre. Par bonheur, les milieux littéraires et universitaires américains et européens n'arrêtent pas de lui témoigner de l'intérêt. En Argentine même, elle jouit d'une vive ferveur populaire. On l'associe naturellement à la mémoire du fabuleux aveugle de Buenos Aires. Borges a énormément marqué ceux qui l'ont rencontré. Je me souviens que Jean Cassou m'en a souvent parlé avec une vive affection. En parfait homme de culture, il connaissait le français, mais paraît-il mieux encore l'anglais. Il appréciait aussi l'allemand qu'il avait appris seulement pour pouvoir lire Schopenhauer. En outre, il s'était initié par pur plaisir à deux langues mortes, le saxon ancien et les sagas scandinaves. En France, c'est Drieu-La Rochelle qui lança Borges. Par la suite, Roger Caillois, comme on l'a vu dans l'émission consacrée à Victoria Ocampo, s'acharna à faire connaître ses contes métaphysiques. Convaincu du peu de réalité du monde, l'homme libre, comme l'appelait Octavio Paz, fut un grand poète baroquisant, une extraordinaire machine à fabriquer des songes et des récits. Dans le monde des livres, Hector Bianchetti a écrit sur Borges ce qui suit. Aussi renouait-il avec le rêve impossible du scribe au service de la littérature qui accepte que si une chose est digne d'être chantée, toute le son et confirmer la cohérence interne de son œuvre, une cohérence supérieure universelle. Une fois revenu avec Carlos Valiente Noailles dans son appartement de l'avenue Alvéar, ce dernier m'invite à découvrir une partie de sa collection de livres français, trône au premier rang, Apollinaire, Bergson, Claudel et bien sûr Proust, en 16 volumes dans une splendide édition de Gallimard. Juste à côté, j'aperçois un ouvrage de Stéphane Mallarmé, Poésie et poèmes dans une édition brésilienne proposée en français. Mon hôte me montre alors un autre livre publié en français d'un certain Manuel Olascoaga, La conquête de la Pampa. Il est intéressant de signaler que cet ouvrage édité en Argentine s'adressait au public français et ce, afin de stimuler l'immigration. Après avoir examiné quelques textes précieux, je réalise une fois de plus la multiplicité de l'influence française en Argentine, ainsi que dans plusieurs autres pays d'Amérique du Sud. Mon entretien avec Carlos Valente Noailles s'achève. Ne serait-il pas grand temps d'écouter les témoignages merveilleux de ceux qui nous aiment ? Je suis en effet au cœur de Buenos Aires et me retrouve immergé au sein de cette culture universelle où Borges, Proust, l'ébauchement et plusieurs autres auteurs, acteurs, chanteurs viennent me raconter la passion extraordinaire qui les anime pour cette vie où triomphe l'esprit. Avant de prendre congé de mon hôte, nous sommes chaleureusement serrés la main, nous nous reverrons, ai-je pensé, dans l'ascenseur.